Le thème que j'avais à cœur de partager aujourd'hui avec vous, Laura l'a déjà un petit peu évoqué, c'est la question de la paternité de Dieu. En fait, je me suis posé la question suivante. Mais au fond, qu'est-ce que ça change concrètement pour nous que Dieu soit notre Père? Savoir cette vérité, avoir conscience de cela au quotidien, va-t-il apporter une réelle différence à notre foi et à notre vie quotidienne de chrétien? J'ai récemment lu que James Packer, un grand homme de Dieu qui nous a quittés juste la semaine dernière, en ce qui le concerne, allait jusqu'à penser qu'on peut juger à quel point une personne comprend la foi chrétienne en découvrant justement ce qu'elle pense de cette idée d'avoir Dieu pour Père. Autrement dit, d'après lui, il y a dans cette notion de paternité de Dieu le cœur du cœur de notre foi. Aussi, c'est donc là-dessus que j'aimerais vous inviter à réfléchir ce matin. Et pour introduire cela, nous allons lire deux courts textes du Nouveau Testament. Le premier dans la lettre aux Galates, au chapitre 4. Jésus nous a permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, qui crie Abba, c'est-à-dire Père. Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Et un deuxième texte dans la première lettre de Jean, au chapitre 3. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Deux textes forts. Et deux textes qui viennent donc exprimer cette même réalité. Nous sommes les enfants de Dieu. Plus précisément, nous avons été adoptés par Dieu lorsque nous avons cru, lorsque nous avons choisi de lui faire confiance dans notre vie. Et ceci est un privilège unique. C'est un privilège d'abord parce que, comprenons bien, Dieu n'était en rien obligé de nous adopter. Nous ne sommes pas enfants de Dieu par nature. Et tous, de fait, ne le sont pas. Seuls, je le répète, ceux qui ont choisi de le suivre. Mais même là, même pour ceux qui seront sauvés, rien ne le forçait pour autant à nous adopter. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu aurait très bien pu nous justifier et nous régénérer ses autres actions qui découlent de la croix, mais sans néanmoins faire de nous ses enfants. Il aurait très bien pu juste nous dire: par la mort et la résurrection de Jésus et au moyen de la foi, les portes du ciel te sont dorénavant ouvertes. Ce qui aurait été déjà magnifique, on est d'accord. Mais qui n'implique pas pour autant l'adoption et tout ce qui va avec. Non, il y a ici une grâce supplémentaire. Il y a ici comme le couronnement, l'apothéose de l'amour de Dieu à notre égard. Car cette adoption, en fait, elle est au-delà de tout le reste, au-delà de toute bénédiction. Elle est au-delà parce qu'avec elle, on entre, me semble-t-il, dans le cœur le plus intime de Dieu. On entre dans ce qu'il est, lui, au-dessus de toute autre chose. Un auteur disait, ce qui caractérise Dieu, ce n'est pas d'abord qu'il est le Créateur, ou qu'il est roi, ou même qu'il est Dieu dans un sens abstrait. Non, ce qui caractérise Dieu avant tout, c'est qu'il est un Père depuis toujours. Car avant que quoi que ce soit d'autre n'existât, et de toute éternité, Dieu aimait et prenait plaisir en son Fils. Oui, en effet, quand on y réfléchit, on s'en rend compte, avant toute autre chose, Dieu est d'abord un Père. Et par l'adoption, il vient donc nous intégrer à cette relation première d'amour filial. rien n'est plus renversant que cela. Mais du coup, puisqu'il y a ici quelque chose de si grand, il va être essentiel pour nous de bien en comprendre la portée. Autrement dit donc, de nous demander, comme je le disais au départ, mais au fond, qu'est-ce que ça va impliquer concrètement d'avoir été adopté par Dieu lorsque nous avons cru? Essayons de répondre à cette question. Et pour ce faire, je me suis dit en fait qu'il pourrait être intéressant, tout simplement, de regarder ce que nous connaissons par nature de ce rôle paternel. Oui, puisqu'après tout, cette notion de paternité nous est connue sur cette terre, puisque Dieu nous l'a révélée. Eh bien alors, examinons-la pour pouvoir en déduire ce que nous pouvons attendre d'un père envers son enfant. Personnellement, à travers cet examen, j'ai relevé trois choses que je vais vous partager. Un bon père, d'abord, est celui qui va guider son enfant. Il est celui qui va constamment lui montrer la voie à suivre. Un bon père, ensuite, est celui qui va toujours prendre soin de son enfant, qui va le protéger et veiller sans cesse sur lui. Un bon père, enfin, est celui qui va simplement accorder une grande valeur à son enfant, juste pour qui il est, et qui va se réjouir de lui et de partager son quotidien avec lui. Voilà, n'est-ce pas, le portrait du père idéal, ou du parent idéal, bien évidemment, de manière générale. Eh bien, chers amis, Dieu est exactement ce père-là pour chacun d'entre nous. Et il l'est toujours, en tout temps, toute occasion et toute circonstance. Sa parole, nous allons le voir en lisant plusieurs versets, nous l'affirme sans aucune ambiguïté. Et avoir conscience de cela, se saisir de ces réalités, oui, comme le disait Packer, ça va vraiment changer notre vie. Nous allons donc détailler ces trois points afin de mieux pouvoir nous en imprégner pour notre vie au quotidien. Et puis nous terminerons notre réflexion en disant quelques mots toutefois sur les périodes de nos vies où il nous est peut-être plus difficile d'entrevoir et de vivre ces vérités. Mais nous commençons donc avec ces caractéristiques de Dieu notre Père. Premier point, nous l'avons dit, parce que Dieu m'adopte comme son enfant lorsque je viens à lui, il s'engage, de fait, par là même, à me conduire dans la vie, à me montrer la voie à suivre, à m'apprendre jour après jour à distinguer le bien du mal et à m'aiguiller dans tous mes choix et dans toutes mes décisions. Dieu fait cela. Il le fait à travers la Bible, bien évidemment. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Et c'est par le Saint-Esprit qu'il vient nous faire comprendre, intégrer et accepter cette parole. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Oui, Dieu vient nous montrer la voie à suivre. Mais ce qui est particulièrement génial concernant ce point, vous le noterez bien, c'est que, puisqu'il est Dieu, nous savons qu'il ne se trompe jamais. Et donc, qu'il ne nous amènera jamais dans des voies sans issue. Alors, sachant cela, chers amis, j'avais juste envie de nous dire, pour faire suite aussi à ce que nous a partagé Laura dans son introduction, et si nous lui faisions confiance? Oui, si nous acceptions de nous laisser réellement guider par notre Père Céleste. Mais j'entends en tout, bien sûr. Même donc dans ces directives pour lesquelles nous sommes naturellement plus récalcitrants. Oui, pourquoi rechignons-nous si souvent à mettre en pratique les commandements de Dieu alors que nous savons pourtant pertinemment qu'en faisant cela, nous ne nous tromperions jamais de route. Nous ne nous tromperions pas, puisque ces paroles proviennent d'un Père qui aime ses enfants et qui ne cherche donc qu'à les guider pour leur bien. Nous manquons vraiment de discernement parfois. En tout cas, il y a donc ici, sans aucun doute, un appel pour chacun d'entre nous. Un appel à chercher à obéir radicalement et sans aucun délai à la parole divine. Et si nous ne le faisons pas, c'est-à-dire si nous persistons à rester sourds à ses commandements, puisque Dieu est notre Père, croyons aussi qu'il ne va pas hésiter à nous corriger. D'ailleurs, même si à première vue cette correction n'est sans doute pas ce qui nous enchantera le plus, même si elle pourra nous faire mal parfois, sans aucun doute, je crois que nous pouvons néanmoins nous réjouir qu'il la fasse quand même. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité selon leurs idées, mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige afin de nous faire participer à sa sainteté. Ainsi oui, Dieu est un père qui nous dirige et nous corrige pour notre bien. Alors donc, je le redis, acceptons cette idée et laissons le faire en devenant toujours plus des enfants obéissants. Et pour cela, bien sûr, pour le laisser faire, connaissons mieux sa parole. Plongeons-nous-y avec plus d'énergie, afin qu'elle puisse être notre boussole en toute occasion. Voilà pour le premier point. Et nous poursuivons de suite avec le deuxième. Parce que Dieu nous a adoptés comme ses fils et ses filles, il s'engage donc également à prendre soin de nous. L'apôtre Pierre disait « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. » Et cette belle image du berger fait bien apparaître aussi, je trouve, ces sentiments de protection, de tendresse et de douceur qu'on peut attendre d'un bon père envers ses enfants. Oui, Dieu prend soin de nous. Dieu, c'est ce père qui prend sa fille dans les bras quand celle-ci est effondrée de s'être disputée avec ses copines. Dieu, c'est cette mère qui sèche les larmes de son fils qui est tombé parce qu'il faisait du vélo sans les mains. Dieu, c'est ce père qui se met toujours du côté de la route où les voitures circulent trop vite. Dieu, c'est cette mère qui passe des heures à écouter patiemment les soucis de son enfant au bord de son lit. Oui, Dieu est ainsi. L'Écriture dit que ses entrailles vibrent et s'émeuvent pour nous. Toujours, tout le temps. Mesurons-nous cela? Mesurons-nous à quel point nos difficultés le concernent et le rejoignent? Mesurons-nous à quel point il a à cœur de nous porter dans nos moments difficiles? Et ce n'est pas moi qui le dis pour essayer de vous convaincre. Non, c'est lui-même qui nous l'affirme dans sa parole. Écoutez ces quelques versets. Écoutez-les et croyez-les simplement. Dieu t'abrite de son aile et caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier. Elle est une armure. Ceux qui sont abattus, il les guérit. Il panse leurs blessures. Comme un enfant que sa mère console, je vous consolerai, dit Dieu. L'Éternel a trouvé son peuple dans une région aride, dans un désert inhabité rempli de hurlements. Il a pris soin de lui et il l'a éduqué. Il a veillé sur lui comme sur la prunelle de ses yeux. Écoutez-moi, vous que j'ai pris en charge dès avant la naissance, que j'ai porté dès le sein maternel. Je resterai le même jusqu'à votre vieillesse. Et je vous soutiendrai jusqu'à vos cheveux blancs. C'est moi qui vous ai soutenu, et je vous porterai, oui, je vous soutiendrai, et vous délivrerai. Voici les promesses de Dieu pour nous. Voici les promesses d'un Père qui veut veiller, protéger et consoler ses enfants, à chaque instant de leur vie. Dieu nous conduit. Dieu prend soin de nous. Et nous arrivons à présent au dernier point. Parce que Dieu est notre Père, alors cela veut dire enfin et tout simplement qu'il trouve son plaisir en nous. Sans rien d'autre, je dirais. Juste l'amour de l'autre, de nous en l'occurrence, pour qui il est. Il nous a voulu d'abord tels que nous sommes. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Puis, même si le péché nous a abîmés, son attachement pour nous n'a pas varié. Plus encore, il a payé le prix fort à la croix pour rendre à nouveau notre relation possible. Et plus même, comme si cela ne suffisait pas, on l'a dit, il nous a adoptés pour nous rendre encore plus proches de lui. Face à cela, moi je me dis, mais à quel point devons-nous compter pour lui? Oui, quelle immense valeur doit-il accorder à chacun d'entre nous pour vouloir être ainsi notre Créateur, notre Rédempteur et notre Père? Nous avons de la valeur pour Dieu, chacun individuellement. Et une valeur que nous discernons également de manière toute simple, dans cette importance qu'il accorde à notre intimité, à cette intimité qu'il désire que nous vivions avec lui. Un des plus beaux versets de la Bible en ce sens me semble être cette parole de l'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le repas, ou cette image si belle et si simple à la fois, du plaisir gratuit, de la joie gratuite d'être simplement l'un avec l'autre. Un autre verset d'ailleurs nous parle de cette joie que Dieu ressent pour nous. Écoutez-le. « L'Éternel, ton Dieu, dit le prophète, fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. » C'est ici, me semble-t-il, comme la quintessence de l'amour. Se réjouir de l'autre. L'aimer juste pour qui il est. Faire de lui notre délice. Chérir simplement sa présence, en fait. Et c'est toujours, je crois, ce que veut un père ou une mère avec son enfant. Personnellement, parce que j'aime mes enfants, mon cœur déborde quand je suis avec eux. Et par moments, je m'arrête et je les regarde juste. D'ailleurs, parfois, ils s'en rendent compte et ils me disent « Ben quoi, qu'est-ce que j'ai ?» Mais rien, rien. Je suis simplement tellement heureux de te connaître et d'être avec toi. Alors, je ne peux m'empêcher de vibrer quand je pense que Dieu doit ressentir exactement la même chose pour moi. Et de manière tellement plus parfaite en plus. Oui, Dieu est mon tendre Père. Il est celui qui me dirige, celui qui veille sur moi et celui qui me chérit dans son cœur. Et cette vérité, effectivement, est tellement belle à entendre, je trouve, tellement belle à recevoir. Elle est tellement un encouragement pour nous. Elle est tellement une promesse qui vient nous offrir confiance, joie et sérénité pour notre vie aujourd'hui. Quelle promesse. Mais, ah bon, il y a un mais ici? Eh bien, oui et non. Non, d'abord, il n'y a pas de mais, parce que Dieu, soyons-en convaincus, est vraiment ce Père parfait en toute occasion. Les vérités que nous venons de voir ne sont pas partielles. Elles sont absolument vraies en tout temps. La Bible l'affirme, nous pouvons et nous devons donc le croire. Pourtant, avouons-le, il y a néanmoins un mais. Ce mais, C'est juste que nous avons parfois du mal à vivre ces réalités, notamment quand nous passons par la souffrance, et que Dieu nous semble si loin de nous diriger, si loin de prendre soin de nous, si loin de nous aimer même. Et nous ne pouvons pas nous contenter d'affirmer alors que c'est juste notre faute et qu'en étant plus vigoureux dans la foi, ce sentiment disparaîtrait. Ah, je ne le crois pas. Parce que la Bible fait vraiment beaucoup de place aussi à ce ressenti de l'absence de Dieu. Psaume 77, par exemple. Mon esprit interroge. L'abandon du Seigneur va-t-il durer toujours? Ne redeviendra-t-il plus jamais favorable? Son amour sera-t-il épuisé à jamais? A-t-il cessé pour toujours de parler? Dieu a-t-il oublié de manifester sa faveur? A-t-il, dans sa colère, fermé son cœur? Oui, au vu de tels textes, ou au vu de notre expérience parfois, on a le droit de se le demander. Dieu cesserait-il parfois d'être notre Père aimant? C'est une question troublante, mais une question véritable, et qui apparaît quand on aborde cette question de la paternité de Dieu. Alors, qu'en dit la Bible? Eh bien, je crois que la meilleure réponse à cette question que nous donne l'Écriture, ce n'est pas une réponse à proprement dit, mais c'est plutôt un exemple. Mais quel exemple? C'est l'exemple, ni plus ni moins, du Fils légitime, Jésus. Ce Fils bien-aimé, que Dieu aime de toute éternité, et qui a pourtant, même lui, connu ce sentiment d'abandon du Père alors qu'il était en train de vivre l'expression la plus forte de sa souffrance. Qu'apprenons-nous à travers cet exemple de Jésus? Eh bien, deux choses, me semble-t-il. D'abord, nous apprenons, même si je vous avoue que c'est assez dur à dire ou à entendre, mais la parole l'affirme néanmoins, d'abord, nous apprenons que la souffrance est parfois un de ses moyens, justement, à travers lequel le Père Céleste prend soin de ses enfants. C'est assez dérangeant, n'est-ce pas? Mais pourtant, oui, la souffrance, mais malgré elle, bien sûr, car Dieu n'en est jamais l'auteur, et parce qu'elle n'est jamais bonne en elle-même, mais la souffrance, lorsqu'elle est utilisée par Dieu, peut devenir une source de soin et de bien, en vue d'un plus grand bien. Ce fut le cas pour Jésus. Regardez ce que dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Bien qu'étant fils de Dieu, Jésus a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Et c'est aussi le cas pour nous. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Et quel sera son résultat? Eh bien, elle nous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas rien. Oui, Dieu continue sans cesse. Et même quand nous avons l'impression du contraire, et même quand ça nous dépasse, Dieu continue sans cesse d'œuvrer pour notre véritable bien, pour notre plus grand bien, poursuivant ainsi encore son rôle de Père aimant, qui guide et qui prend soin. Et puis, deuxième point qu'on peut relever grâce à l'exemple de Jésus, c'est que même dans ce silence apparent, Dieu est néanmoins encore là. Et même alors que l'on n'en a pas l'impression, Dieu continue à nous accompagner. On peut être sûr de cela, sûr de cette vérité, parce que Jésus nous le montre à l'orée de ces instants terribles où lui-même va crier l'abandon de son Père, il affirmera néanmoins que Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Attestant donc ainsi que le sentiment d'absence de Dieu ne signifie jamais l'absence effective. Non, Dieu est encore et toujours avec nous. Voici les vérités que nous pouvons saisir quand nous traversons les épreuves et que nous en venons à douter de l'amour de notre Père. Je les répète, il prend quand même soin de nous, même si la manière nous dépasse. Et il continue à nous accompagner, même si on ne le sent plus vraiment. Et puis enfin, et je conclurai avec cela, toujours grâce à l'exemple de Jésus, du Fils Jésus, nous pouvons affirmer une dernière chose. Car de lui, il nous est dit aussi que, après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Et puisque nous savons que notre sort de fils et de fille adoptés ne sera en rien différent de celui du fils légitime, cette promesse est donc aussi la nôtre. Après avoir souffert, nous verrons la lumière et nous serons comblés. Puisse cette réalité nous remplir d'espérance. Et qu'ainsi, que celui qui nous conduit avec persévérance, que celui qui prend soin de nous avec tendresse, et que celui qui nous chérit avec passion, puisse nous faire déborder de la conviction inébranlable de son amour de Père en toute occasion, qu'il nous offre ce matin et pour toujours avec abondance, par sa grâce et pour sa gloire. Amen.